Mais je me demande à quel point l'Église occupe une place importante dans votre vie. À quel point l'Église occupe une place importante dans votre vie. Et par Église, j'entends l'assemblée des croyants. Hein. Je ne parle pas d'un bâtiment, je parle de l'assemblée des croyants. Et si vous êtes présent aujourd'hui dans cette salle pour ce culte, c'est que forcément, l'Église, c'est quelque chose qui ne vous est pas non plus complètement étranger. Hein. Sinon, vous seriez probablement pas là. Mais qu'est-ce qui vous a fait venir aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a fait venir aujourd'hui? Est-ce que vous êtes venu de bon cœur? Ou est-ce que vous êtes venu en traînant les pieds aujourd'hui? Est-ce que vous aimez, pardon, est-ce que vous aimez sincèrement et profondément la compagnie des chrétiens? Est-ce que vous aimez être là? Ou bien est-ce que vous ne voyez pas tellement l'importance de prendre part activement à la vie de cette communauté de personnes qu'on appelle l'Église? J'ai pas besoin de vous signaler que nous vivons à une époque qui est marquée par l'individualisme. Et pour faire simple, l'individualisme, c'est quoi? C'est une attitude qui consiste à dire qu'on peut très bien se débrouiller tout seul. Et donc, l'individualisme conduit certains croyants à se dire ceci: moi, ma Bible et le Seigneur, on forme une bonne équipe finalement. L'Église, c'est pas si important que ça. Et donc, on voit de plus en plus de gens autour de nous qui se disent chrétiens, mais dont l'engagement dans la foi est déconnecté d'un engagement dans l'église locale, dans la communauté locale des croyants. Ce sont souvent des gens qui ont beaucoup d'amis, mais qui n'appartiennent nulle part. Ce sont des gens d'une grande spiritualité, mais aussi d'une grande autonomie. Ce sont des gens qui donnent leur avis à tout le monde, mais qui rendent des comptes à personne. Mais vous aujourd'hui, quelle importance l'Église a-t-elle dans votre vie aujourd'hui? C'est la question que je vous pose et je crois que c'est la question qui est soulevée dans le psaume qu'on est sur le point de lire et d'étudier ensemble. Je constate qu'on a tous tendance, en fait, vous et moi, hein, à mépriser plus ou moins l'Église en tant qu'institution locale. Du moins, nous avons tendance à en sous-estimer la valeur et l'importance et la place qu'elle devrait occuper dans notre vie. C'est certainement dû en partie à notre individualisme, c'est peut-être dû en partie également à notre anticléricalisme bien français, qui a des causes historiques. Mais l'auteur de ce psaume, qui est le roi David, je crois, veut corriger cette tendance en nous. Il veut corriger cette tendance en nous. Il veut nous faire comprendre une chose, à mon avis, c'est combien l'Église mérite d'être aimée. L'Église mérite d'être aimée. Et donc on va voir que David, dans ce psaume, va exprimer tout son enthousiasme pour l'Église. Et il veut nous communiquer cet enthousiasme. Il veut que ce soit contagieux. Et tout simplement, ce texte est destiné à nous faire aimer l'Église à notre tour. Et si vous ne savez pas ce qui devrait vous faire aimer l'Église, si aujourd'hui vous ne savez pas, en fait, ce qui devrait vous faire aimer l'Église, eh bien, cette prédication est pour vous. Alors, sans plus tarder, je vais inviter Jonathan à venir lire le texte pour nous. Merci.
Lisons ensemble le psaume 122. Je suis dans la joie quand on me dit: allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds se sont arrêtés à tes portes, Jérusalem. Jérusalem, toi qui es bâtie comme une ville qui forme un ensemble bien uni, c'est là que montent les tribus de l'Éternel, comme témoignage pour Israël, afin de célébrer le nom de l'Éternel. Car là sont installés les trônes pour le jugement, les trônes pour la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, qu'ils vivent tranquilles ceux qui t'aiment, que la paix soit dans tes remparts et la tranquillité dans tes donjons. À cause de mes frères et de mes amis, je dirai donc que la paix soit en toi. À cause de la maison de l'Éternel notre Dieu, je recherche ton bonheur.
Merci, nous allons prier. Au moment d'étudier ta parole, Seigneur notre Dieu, nous implorons ton aide, afin que par ton Saint-Esprit, tu illumines notre intelligence, et que tu nous aides, Seigneur, à comprendre ce que tu veux nous enseigner aujourd'hui, et non seulement cela, mais que tu l'appliques toi-même, par ta puissance, à notre vie, pour que nous en soyons transformés. Amen. L'Église mérite d'être aimée. L'Église mérite d'être aimée. Elle mérite d'être aimée, premièrement, parce que la communion des croyants est une joie incomparable. La communion des croyants est une joie incomparable. Et la première chose qu'on découvre dans ce psaume, en effet, c'est David, le roi David, qui nous décrit son enthousiasme. Et il nous explique qu'il est ravi, il est dans la joie. Pourquoi ? Ou par quoi ? Ou à cause de quoi ? À cause de la cohésion des croyants qu'il est en train d'observer. Je suis dans la joie quand on me dit « allons à la maison de l'Éternel ». Il n'est pas dans la joie quand on lui dit « d'aller à la maison de l'Éternel », mais il est dans la joie quand on lui dit « allons à la maison de l'Éternel ». Il est content de cette cohésion qui existe parmi les croyants qui décident d'un seul cœur de se rendre au temple pour rendre un culte à Dieu. Enfin, à l'époque, ce n'était pas encore le temple, c'était le tabernacle, parce que le temple n'avait pas encore été construit. C'est formidable pour David, formidable ce qu'il est en train d'observer autour de lui. Ces gens qui viennent en masse à Jérusalem, dont les pieds s'arrêtent aux portes de Jérusalem. Cette ville d'ailleurs de Jérusalem qui, du fait de la présence du temple, ou à l'époque du tabernacle, qui centralise, si vous voulez, l'adoration des Israélites. Et pour David, même l'architecture de Jérusalem évoque à ses yeux la solidarité et l'unité des croyants. Jérusalem, toi qui es bâti comme une ville qui forme un ensemble bien uni. Vous voyez quel est l'enthousiasme de David ? David est tout simplement enchanté, enchanté par la communion manifeste des croyants. Est-ce que vous connaissez l'émission de télé qui s'appelle Tous Ensemble ? Tous Ensemble, une émission qui passe le samedi sur TF1 que je n'ai jamais vue personnellement mais dont j'ai entendu parler. C'est une émission où, toutes les semaines, une action solidaire est organisée en faveur d'une famille en difficulté. Et généralement, cette action solidaire consiste à leur construire une maison ou à, du moins, rénover leur maison ou faire un agrandissement, tout ça, parce qu'ils sont vraiment en difficulté. Et donc, le principe de cette émission est de trouver des bénévoles, de solliciter l'aide de bénévoles dans le voisinage qui vont accepter d'aider à la réalisation de ce projet, de façon tout à fait bénévole, hein. Soit ils vont donner un coup de main parce qu'ils sont compétents dans un domaine ou un autre, on va trouver des plombiers ou des charpentiers, etc. Soit ils vont contribuer, si ce sont des professionnels, ils vont peut-être contribuer des matériaux ou de l'équipement ou des outils pour la réalisation du projet, ou bien tout simplement en contribuant financièrement pour essayer d'aider financièrement à la réalisation du projet. C'est une émission généralement très émouvante, à ce qui paraît. J'ai vu l'équivalent aux États-Unis, la version originale anglophone. C'est une émission généralement très émouvante parce qu'on y voit un véritable élan de solidarité de ces gens qui ne se connaissent pas à la base et qui vont chacun y mettre du sien ou du leur, ils vont chacun y mettre du leur dans la réalisation de ce projet qui tient à cœur aux téléspectateurs au moment où on regarde cette émission. On se dit, mince, cette pauvre famille qui souffre, alors ça nous tient à cœur ce projet. Alors du coup, et puis on voit ces gens qui se mobilisent, et on est très très touché par cela. Et tous ces gens, vous voyez, qui sont motivés par un même projet et qui contribuent d'un seul cœur, presque spontanément on a envie de dire, selon leurs moyens, selon leurs compétences, c'est en fait une image relativement juste de la communion des croyants qui fait la joie de David dans ce psaume. Ce n'est pas seulement de l'amitié, ce n'est pas seulement de la cordialité, ce n'est pas seulement de la bonne entente qu'il y a entre les croyants. Mais dans ce texte, du moins, c'est une unité, mais qui se voit, une unité fonctionnelle, une unité active, une unité où ils vont bouger et faire quelque chose d'un seul cœur, vous voyez ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, notamment pour nous, que la vraie communion des croyants, ça ne désigne pas juste le fait d'être ami avec d'autres croyants. Ça ne désigne pas seulement ça. Pour David, dans ce texte, la communion des croyants, ce n'est pas juste un vague sentiment de communion spirituelle entre tous les Israélites. Oui, ça va, on a le même Dieu, donc on est en communion. Non, c'est pas juste ça. C'est plutôt une communion visible, vous voyez, une communion concrète, locale, personnel qui se manifeste par un projet commun Et même l'architecture de Jérusalem, qui est à la fois diverse et unie, bien construite, qui forme un ensemble bien uni, c'est, même ça, c'est emblématique de cette communion des croyants qui fait la joie de David. Et pour ce qui nous concerne, cette unité qu'on pourrait qualifier d'unité presque organique, cette interdépendance si vous préférez, bien nous on en fait l'expérience aujourd'hui, devinez où ? Dans l'Église. Hein ? C'est dans la communauté locale des croyants, en effet, c'est là, et c'est ici ce soir, qu'il y a des gens de tous âges et de tous horizons, des gens qui ont des capacités différentes et complémentaires, ce que la Bible appelle des dons spirituels différents et complémentaires. C'est là qu'il y a, ici même ce soir, des fonctions ou des ministères particuliers qui ont été reconnus. C'est là qu'il y a de l'autorité, qu'il y a de l'ordre. C'est là qu'il y a une certaine discipline. Bref, vous voyez, l'Église réformée évangélique de Lyon est censée être bâtie comme une ville qui forme un ensemble bien uni, pour reprendre l'expression du roi David. C'est ce qu'on est censé être. Et donc ce texte nous encourage dans un premier temps à rechercher cette communion véritable, à la rechercher chacun individuellement, dans le cadre de l'Église, au sein de l'Église, rechercher cette communion véritable qui, dans ce texte, fait l'enthousiasme de David et qui peut faire le nôtre d'enthousiasme aussi. L'Église mérite d'être aimée donc, parce que la communion des croyants est une joie incomparable. Mais l'Église mérite d'être aimée deuxièmement, parce que c'est dans son cadre, dans le cadre de l'Église, par excellence, que les croyants adorent Dieu et que Dieu gouverne les croyants. C'est dans le cadre de l'Église, par excellence, que les croyants adorent Dieu et que Dieu gouverne les croyants. Et donc la deuxième chose qu'on découvre dans ce psaume à partir du verset 4, les versets 4 et 5 en fait, c'est David, en effet, qui là va nous donner la raison de son enthousiasme. Et il le fait de manière très emphatique, très solennelle, hein. Il utilise deux fois l'adverbe de lieu « là » au début de chaque verset, verset 4 et verset 5. C'est là que montent les tribus, blablabla, verset 5, « car là sont installés les trônes pour le jugement ». Le mot traduit par « là » en hébreu, c'est le mot « sham ». Et vous allez voir que ça a son importance dans un petit moment. Pourquoi David est-il donc trop content de voir le peuple s'assembler à Jérusalem ? C'est ce qu'il nous a dit dans les trois premiers versets. Trop content. Le peuple s'assemble à Jérusalem. Génial, je suis dans la joie. Pourquoi ? Deux choses. Verset 4, c'est là, Cham, que se trouve le lieu de culte des Israélites. Et verset 5, c'est là, Cham, que se trouve le trône du roi. Les trônes, au pluriel, successifs des rois d'Israël. Ce sont deux choses extrêmement significatives pour David, comme pour tous les autres Israélites. Le fait qu'il y ait ce lieu de culte à Jérusalem, mais aussi le trône du roi à Jérusalem. Pourquoi ? Parce que le lieu de culte représente la relation privilégiée que le peuple a avec Dieu. Il n'y a que le peuple d'Israël qui est un temple qui appartient à l'Éternel, qui est la maison de l'Éternel, celui qui a créé le ciel et la terre, le Dieu de l'univers. Il n'y a que le peuple d'Israël qui a ça. Et ça se trouve à Jérusalem, et ça représente, ça rappelle au peuple cette relation privilégiée qu'il a avec Dieu. Et le trône de David, lui, le trône du roi, le palais, si vous préférez, du roi d'Israël, représente quant à lui l'autorité bienveillante que Dieu exerce sur son peuple par l'intermédiaire du roi, mais aussi l'autorité bienveillante qu'il exercera sur son peuple de manière ultime et parfaite par l'intermédiaire du Messie promis qui doit venir de la lignée du roi David, justement. Donc ça évoque des choses super importantes, vous comprenez ? Et voilà pourquoi David aime sa ville, parce que ces deux choses sont là. Ces deux choses uniques au monde, le lieu de culte et le trône du roi, se trouvent dans sa ville, à Jérusalem. Alors il y a certainement des endroits où vous aussi, vous aimez aller, où vous aimez être, plus que d'autres endroits. Et c'est pas forcément parce que ces endroits ont un certain charme, ou un certain cachet, ou parce qu'ils sont vraiment remarquables par rapport à d'autres endroits dans le monde, mais vous aimez être ou aller dans ces endroits, peut-être parce que, ou en raison de ce que vous pouvez y trouver. Pas en raison de l'endroit lui-même, mais en raison de ce qui s'y trouve. Et un des endroits où notre famille, à nous, aime le plus aller, dans le monde, c'est une petite ville agricole de 10 000 habitants dans le nord-ouest des États-Unis. Et dans cette petite ville agricole de 10 000 habitants à peine dans le nord-ouest des États-Unis, une ville dont vous n'avez jamais entendu parler, il n'y a pas grand-chose à faire, sinon se promener en forêt quand c'est l'été et déblayer la neige quand c'est l'hiver. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Mais pourquoi, à votre avis, est-ce que c'est un de nos endroits préférés où aller dans le monde? Ils sont bizarres, les Sarans. Ils ne sont pas si bizarres que ça. Parce que c'est là, et nulle part ailleurs, qu'habite la famille de Suzanne. Ses parents, ses frères et sœurs, leurs enfants, c'est-à-dire pour nos enfants, leurs grands-parents, leurs oncles, leurs tantes, leurs cousins. C'est pour ça qu'on aime aller là-bas, probablement plus que n'importe où dans le monde. Et de la même façon, David aime Jérusalem. Pas parce que Jérusalem, c'est une belle ville à mettre sur les cartes postales. C'est pas pour ça qu'il aime Jérusalem. Il aime Jérusalem parce que c'est là et nulle part ailleurs que se trouve, vous l'avez compris, le temple et le trône. Est-ce que c'est toujours à Jérusalem aujourd'hui que se trouve le temple de l'Éternel et le trône de David? Eh bien non. Non, ces choses se trouvent aujourd'hui, devinez où? Dans l'assemblée locale des chrétiens. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le temple, figurez-vous qu'il se trouve parmi nous. Et le trône du Messie se trouve ici même ce soir. Le saviez-vous? La Bible explique que Jésus est venu réaliser tout ce qui était annoncé de manière symbolique par le temple à Jérusalem et par le trône de David, par le trône du roi d'Israël. C'est-à-dire que Jésus est venu établir une fois pour toutes une relation privilégiée entre Dieu et les croyants en s'offrant lui-même en guise de sacrifice pour le pardon de nos péchés. Il a réalisé de façon ultime, parfaite, définitive, tout ce qui était réalisé sans cesse au temple. Mais lui, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même comme sacrifice pour le pardon de nos péchés et pour nous assurer, à nous croyants, une relation privilégiée, perpétuelle avec Dieu. C'est pour cette raison qu'on n'a pas besoin de se rendre à Jérusalem pour rendre un culte à Dieu. Nous pouvons le faire ici même. Mais Jésus est aussi venu établir une fois pour toutes le règne de Dieu. Le règne de Dieu sur toute chose. Jésus a été le fils de David promis, le Messie qui devait venir et établir ce règne. Comment est-ce qu'il a fait? Il a triomphé du mal et de la mort, c'est-à-dire de tous les ennemis imaginables, en ressuscitant, en sortant vainqueur du tombeau le troisième jour. Et comme Jonathan nous le rappelait la semaine dernière, il a été élevé souverainement par Dieu le Père. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Et donc la Bible présente Jésus comme étant à la fois le Sauveur et le Seigneur de tous ceux qui lui font confiance. Il a réalisé ce qui était annoncé par le temple. Et il a réalisé ce qui était annoncé par le trône. Ces choses-là ne se trouvent plus à Jérusalem. Où se trouvent-elles ces choses-là? Où se trouve le temple de l'Éternel aujourd'hui? Se trouve partout où les croyants se réunissent pour rendre un culte collectivement à Dieu par Jésus. C'est notre cas ce soir? Je pense. Donc le temple de l'Éternel est ici. Où se trouve le trône du Messie aujourd'hui? Où se trouve-t-il aujourd'hui? Il se trouve partout où les croyants se réunissent pour recevoir collectivement les enseignements de la Bible. La Bible qui est la parole de notre roi, la parole de notre Seigneur. La Bible qui est présentée comme l'épée tranchante, l'épée à double tranchant du Messie ou encore le sceptre de fer de notre roi. Ce sont des images bibliques pour décrire la parole de Dieu qui est la Bible. Pourquoi David aime-t-il autant Jérusalem alors? Pourquoi est-ce qu'il aime autant sa ville? Pas parce que c'est une jolie ville, mais parce que c'est là que se trouvaient ces choses qui aujourd'hui se trouvent dans l'Église, là où l'Église se réunit localement, comme c'est notre cas ce soir. Ce que le texte nous fait comprendre donc, c'est que l'Église, vous voyez, elle mérite d'être aimée. Elle mérite d'être aimée parce que c'est dans son cadre, par excellence, que les croyants adorent Dieu, ce qui se faisait autrefois au Temple, et que Dieu gouverne les croyants, ce qui se faisait autrefois par l'intermédiaire du roi à Jérusalem, assis sur son trône. Mais cela, Dieu le fait par l'intermédiaire, pardon, de Jésus. Alors, je vous pose une question. Est-ce que vous avez envie de connaître Dieu? Est-ce que vous avez envie que Dieu vous pardonne vos péchés? Est-ce que vous avez envie d'être réconcilié avec Dieu pour l'éternité? Est-ce que vous avez envie de soumettre votre vie à son règne qui est bienveillant et parfait? Est-ce que vous avez envie que Dieu vous gouverne? Et cela pour votre plus grand bien, pas pour vous faire du mal, pour votre plus grand bien. Est-ce que vous avez envie de tout ça? La réponse, c'est Jésus. La réponse, c'est Jésus. Dites-lui que vous lui faites confiance. Dites-lui que vous reconnaissez ce qu'il a fait pour vous. Inutile d'aller à Jérusalem pour cela. Dites-lui que vous l'aimez. Et c'est seulement en ayant fait cela, j'espère de tout cœur que c'est votre cas ce soir, c'est seulement en ayant fait cela que vous pourrez ensuite comprendre pourquoi on peut vraiment être enthousiaste pour l'Église. Parce que l'Église, si vous aimez Jésus, par conséquent, vous aimerez l'Église. Parce que Jésus en est le chef. Et l'Église est son corps. Mais troisièmement et dernièrement, l'Église mérite d'être aimée. Et par conséquent, les croyants doivent activement rechercher son bien. Le bien de l'Église. C'est la conclusion pratique de tout le psaume. Et c'est ce qu'on trouve dans les versets 6 à 9. Les quatre derniers versets du psaume. Dans ces versets, David, le roi David, appelle solennellement notre attention sur une idée simple, nette, précise, sans doute l'idée principale de tout ce psaume. Alors écoutez bien, c'est une idée tellement importante pour nous qui se résume à une seule phrase et qui est la suivante. Sha'alu shelom Yerushalayim. Plus précisément, demandez la paix de Jérusalem, verset 6, ou priez pour la paix de Jérusalem. Alors, vous voyez, peut-être que vous l'avez remarqué quand je l'ai dit, il y a un effet de style en hébreu qui joue sur la répétition du son « sh » et sur l'emploi de mots qui sont construits sur une racine similaire, notamment sur la racine du mot « shalom », que vous connaissez tous, qui veut dire « paix ». Je ne vais pas relire le psaume en hébreu, hein. J'en serais pas capable d'ailleurs, mais c'est très frappant. Et cet effet de style, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure le mot « là » par exemple, « sham », le mot « nom », le nom de l'Éternel, « shem ». Il y a un jeu de mots qui se construit petit à petit au fil du psaume et qui va aboutir comme un bouquet final, comme un feu d'artifice sur ce psaume, sur ce verset 6, où là c'est chaque mot qui commence par « shalou shelom yerushalayim » Et ça continue après. Cet effet de style a pour but quoi ? D'attirer l'attention du lecteur sur la notion, sur cette notion de shalom qui apparaît au verset 6 pour la première fois, mais qui ensuite est répétée deux fois de plus. Et c'est un mot qui est constitutif étymologiquement du nom de Jérusalem. Bref, tout ça pour dire quoi ? Tout simplement qu'il ne fait aucun doute que dans ce psaume, l'intention de David est de faire désirer au lecteur le shalom de Jérusalem, la paix, le bien, la tranquillité, le bonheur de Jérusalem et donc pour que le croyant agisse en conséquence. Bien sûr que ce que David dit maintenant ne doit pas être séparé de ce qu'il vient de dire et ce qu'on a expliqué il y a quelques instants. Il a expliqué, David, pourquoi Jérusalem devait être aimée. Hein? Sham, il y a le temple. Là, il y a le temple. Suivez. Sham, il y a le trône. Et maintenant, il explique par conséquent ce qu'on devrait désirer pour Jérusalem. Shalom. Sa paix. Parce que il y a là le temple. Et le trône, ce qu'il rappelle d'ailleurs en partie au verset 8 et 9. À cause de mes frères et de mes amis. À cause de la maison de l'Éternel. Alors pourquoi est-ce important de le rappeler ? parce que cette exhortation à rechercher le bien de Jérusalem veut dire pour nous non pas rechercher le bien de la ville actuelle de Jérusalem, mais rechercher le bien de l'Église, parce que c'est dans le cadre de l'Église que se trouvent, depuis la venue et l'œuvre de Jésus, précisément ces choses qui étaient si précieuses pour David. Elles ne se trouvent plus dans la ville de Jérusalem aujourd'hui, mais elles se trouvent dans l'Église depuis la venue et l'œuvre de Jésus. Alors regardez un peu les choses qui vous sont précieuses dans la vie. D'accord ? Qu'est-ce qui vous est précieux dans la vie ? Un certain objet ? Une certaine activité ? Une certaine personne ? Qu'est-ce qui vous est précieux dans la vie ? Et ne vous semble-t-il pas naturel de vous investir au profit de ces choses qui vous sont précieuses ? Par exemple, une belle voiture dont vous êtes très fier, vous en prenez soin, vous la lavez régulièrement, vous l'entretenez, et cela vous coûte certainement un peu d'argent. Normal, ça vous paraît naturel de faire cela pour quelque chose qui vous est précieux. Ou bien ce sport qui vous passionne, vous faites évidemment, naturellement, tout ce qui est en votre pouvoir pour ne pas rater l'entraînement hebdomadaire. Vous vous équipez consciencieusement en termes de matériel et de vêtements. Vous vous informez concernant peut-être les compétitions auxquelles vous êtes appelé à participer ou auxquelles participent vos sportifs préférés ou voilà, vos équipes préférées. Ou encore cette personne pour qui vous éprouvez des sentiments. Vous paraît naturel de rechercher des occasions d'être dans sa présence, vous dépensez naturellement de l'argent sur cette personne, vous lui passez des coups de fil et bien sûr vous priez pour elle. Quoi de plus naturel ? Eh bien, d'après ce psaume, l'Église aussi, et peut-être surtout, mérite d'être aimée. Et par conséquent, les croyants doivent activement rechercher son bien, rechercher le bien de l'Église, c'est-à-dire s'engager et s'investir dans l'Église, consacrer du temps à l'Église, rechercher son unité, sa paix, sa croissance, se préoccuper de ses besoins, contribuer à sa mission et bien entendu prier pour elle, prier pour l'Église. Quoi de plus naturel, on le fait bien pour toutes ces autres choses qui nous sont précieuses. À combien plus forte raison pour l'Église qui mérite tant d'être aimée par les croyants. Alors vous voyez pourquoi je disais en introduction que l'intention de ce psaume, c'était à la fois de nous faire comprendre combien l'Église mérite d'être aimée et en même temps de nous inciter à aimer l'Église à notre tour, comme David s'enthousiasme pour Jérusalem. Il nous a parlé, le roi David, de son enthousiasme pour l'Église, pour Jérusalem, qui est représentative de l'Église, si vous voulez, en nous disant, c'était notre premier point, que la communion des croyants est une joie incomparable. Il nous a ensuite expliqué, deuxièmement, la raison de son enthousiasme pour l'Église. C'est parce que c'est dans le cadre de l'Église par excellence que les croyants adorent Dieu et que Dieu gouverne les croyants. Et enfin, troisièmement, il nous a montré que cet enthousiasme pour l'Église avait des conséquences pratiques qui consistent notamment à rechercher activement le bien de l'Église. Mais de la même façon que David n'est pas idolâtre, en adressant son psaume à Jérusalem, est-ce que vous avez remarqué, c'est à Jérusalem qu'il parle hein, dans ce psaume. De la même façon que David n'est pas idolâtre, en adressant son psaume à Jérusalem et en lui exprimant sa profonde affection, nous non plus en tant que croyants, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas églisolâtres quand on aime profondément et sincèrement l'Église. L'amour de David pour Jérusalem sous-entend ou présuppose, si vous préférez, son amour pour Dieu et sa foi en ses promesses. Et de même, notre amour pour l'Église devrait découler naturellement de notre amour pour Dieu et de notre foi en Jésus, qui est le Seigneur et le Sauveur de l'Église. Je vous invite à la prière. Merci notre Dieu, notre Père, pour la venue et l'œuvre de ton Fils Jésus-Christ, qui a accompli une fois pour toutes tout ce qui était annoncé de manière prophétique et symbolique par le temple de Jérusalem et par le trône de David. Merci d'avoir élevé souverainement le Seigneur Jésus, et merci de l'avoir donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps. Aide-nous maintenant, s'il te plaît, à aimer cette Église que tu comptes bâtir. Nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen.